France Culture.
Afin d'entendre le blues, quand j'étais très jeune, ma petite amie et moi, nous nous glissions dans le ghetto de ma ville natale, Austin, Texas, protégé par l'obscurité. Si on nous avait surpris là, nous aurions probablement été expulsés de l'université. De nos jours, tout le monde chante et danse sur de la musique teintée de blues. Et le fleuve puissant du blues se déverse dans l'oreille de la planète. Ce chant s'éleva dans une période très semblable à la nôtre. Jamais notre espèce n'a été plus puissante et plus riche, ni plus mal à l'aise. En Amérique et partout dans le monde, des gens sans domicile et sans espoir vivent à l'ombre d'une productivité et d'un luxe dont on osait rêver. C'était le cas dans le delta du Mississippi aux premières années du XXe siècle. L'essor du coton donna à une poignée de planteurs des richesses faciles, tandis que la majorité noire qui le produisait vivait dans des bicoques sordides ou errait d'un petit boulot à un autre. Les choses en étaient là lorsque mon père John Lomax et moi-même commençâmes à enregistrer des chants populaires noirs sur le terrain dans les années 1930.
Alan Lomax, 1915-2002, enregistré Le Monde. Anne Girard Esposito, Thomas Duterte.
John and Alan Lomax were collecting working people.
John et Alan Lomax faisaient du collectage auprès des classes ouvrières.
Peggy Seeger, chanteuse.
The Lomaxes were extremely unusual.
C'était vraiment des gens atypiques.
They came from Texas.
Ils venaient du Texas.
They had the common touch, what we call the common touch.
Ils avaient beaucoup d'empathie.
Alan Lomax was an absolutely brilliant singer of the songs.
Alan Lomax était un chanteur magnifique qui s'accompagnait à l'aide d'une vieille guitare.
He got there with his microphone.
Il avait souvent un micro à la main.
And he could make you feel
quand il vous parlait,
as if you were
completely vous aviez l'impression d'être la personne la plus importante du monde.
And so, a Negro woman composing a Christmas lullaby imagines herself to be the mother of Jesus and rocks and hums and wonders what she's going to call that newborn baby.
Virgin Mary had a one son, glory hallelujah, a pretty little baby, glory be to the newborn King.
He would sit there and say, "That's the most wonderful song."
Il me disait, "Quelle chanson magnifique, Peggy Seeger! Tu es une chanteuse exceptionnelle." C'était un sentiment merveilleux.
He could bring the
il faisait ressortir ce qu'il y avait de meilleur en
vous. He really could.
Vraiment.
I used to hear hymns like this down in Texas in Negro churches, and they remind me of a Christmas story an Alabama washerwoman told me one time. She said it was what she told her Sunday school class every Christmas morning, and she began it with a carol. No room, no room, no room. And the time had surely come for our Savior to be born. There was no room, no room, no room.
Wow! Let's try that other tire.
Get that inner back there.
Nathan Salzburg, ancien responsable de l'archive Lomax, musicien.
Initially, the project as John Lomax envisioned it
Au début des années 30, lorsqu'il a imaginé ce projet, John Lomax voulait voyager, principalement dans le sud des États-Unis, d'où il était originaire, pour faire des enregistrements de ce qu'il pensait être la musique folk américaine authentique. Le but n'était pas de faire des enregistrements audio destinés aux archives, mais une série de carnets de chants populaires à usage domestique pour que les gens puissent se divertir dans leur salon autour du piano, en s'accompagnant à la guitare ou au banjo.
I'm particularly anxious to make records of all the calls that the cowboys use to control the cattle, to turn them,
John Lomax,
to quiet them,
père d'Alan Lomax,
maybe to stop them. Now, go along and tell me about the different calls and when you and illustrate your point. In handling the cattle, how do you use the voice to control them?
This was the depression, and John Lomax.
Quand la Grande Dépression a frappé, John Lomax, qui était un fervent collecteur de chansons folk américaines, a sans doute vu cette occasion comme son seul espoir de se faire un peu d'argent. Et il y est parvenu. Ses carnets ont connu un franc succès et ont fait de lui une célébrité nationale, en quelque sorte.
Good night, Irene. Good night, Irene. I get you in my dream.
That's fine, Lead Belly. You're a fine songster.
Thank you, the boss. Thank you.
Mon père a eu un éclair de génie. Il s'est dit que les âmes tourmentées devaient se trouver en prison. Et il avait raison. On est allé à leur rencontre et on a découvert tout un répertoire qui, je pense, fait partie de ce qu'il y a de plus intéressant dans la musique folk américaine. Vous avez déjà entendu Go Down Old Anna? Je pense que c'est un chant de batelier. Il s'adresse au soleil.
Go down, old Hannah, will, will, will. Don't you rise no more. Don't you rise no more. If you rise in the morning, set the world on fire.
Come all you jolly lumbermen and listen to my song. I'll tell you all my story, and I won't detain you long. Concerning some husky lumbermen who once agreed to go and spend a winter recently on Collie's Run, I hope.
Alan Lomax a été élevé à bonne école en voyant le travail de son père.
Jacques Bassal, journaliste.
Dans les années 30, son père est allé dans certains pénitenciers ou dans certaines plantations dans le sud des États-Unis, en Louisiane, mais aussi au Texas et dans l'Oklahoma, dans d'autres régions du sud des États-Unis, dans le Mississippi, pour continuer à collecter.
I'll be so glad when the sun goes down. I'll be so glad.
Chaque jour, ces prisonniers noirs avaient regardé la mort en face. Ils avaient éprouvé une déchéance bien plus pénible que la mort elle-même et créé des chants d'une puissance sans égale pour garder leur cœur en vie. J'avais alors 17 ans et leur courage me semblait en quelque sorte inouï. Je pouvais pas en discuter avec mon père qui, en dépit de son intense compassion pour les prisonniers, croyait au caractère globalement positif du système sudiste. Ce que nous enregistrâmes cet après-midi-là dans la ferme prison centrale d'État du Texas, The Midnight Special, Pick a Bale of Cotton, Little John Henry, Ain't No More Cane on the Brazos, tout ça allait aider à adoucir ses préjugés durcis par le temps. À coup sûr, nos propres vies en furent changées. Malgré les gardiens qui restaient assis à côté durant toutes les sessions d'enregistrement, les détenus remplirent nos disques d'un millier de chansons émouvantes. Une épopée de soleil brûlant, de brutalité et de courage humain. déposés sur des mélodies sincères et profondes. J'étais impatient mais incapable de parler librement avec ces frères que je venais de découvrir et dont les chants triomphaient de leur misère.
L'époque du New Deal du président Roosevelt comportait tout un volet culturel par lequel le gouvernement fédéral envoyait des espèces d'émissaires, pour ne pas dire des missionnaires, parce que c'était pas religieux, mais c'était sociologique et c'était culturel, pour documenter sur la culture populaire des États-Unis, les cultures populaires des États-Unis. Alors, ils envoyaient des photographes et des écrivains. Il y avait Dorothea Lange, qui était une grande photographe employée par le gouvernement américain de l'époque, le gouvernement fédéral. Et donc, John Lomax et son fils Alan, envoyés par le gouvernement de Washington, par la Bibliothèque du Congrès, pour collecter des musiques et des chants populaires.
Les populations noires ne pouvaient pas refouler des blancs. C'était impensable.
Nathan Salzburg.
Elles savaient qu'elles se trouvaient dans une situation très précaire. Si une personne blanche vous approchait dans les années 30 et qu'elle vous demandait de chanter une chanson, vous ne pouviez pas dire non. C'était vous mettre potentiellement en danger. C'est pour ça que de nombreuses personnes ont ouvert leurs portes aux Lomax. Et les Lomax savaient où collecter des chansons folk auprès des communautés noires, car c'était des gens du Sud et ils connaissaient bien le terrain.
Quarter less Twain, that's 10.5 feet. Mark Twain is 12 feet. That's one thousand.
C'est assez émouvant parce que la Lomax raconte quand ses prisonniers,
Jacques Vassal,
ont compris que les Lomax étaient envoyés par la Bibliothèque du Congrès de Washington, donc par une institution du gouvernement fédéral. Il y en a un qui dit avant sa chanson « Monsieur le Président, je voudrais que vous sachiez combien on nous traite mal ici dans le Sud. » Parce qu'il pense que le gouvernement fédéral doit être juste avec tous les Américains et que s'ils sont maltraités, ça doit être que le gouvernement ne le sait pas. Parce que si le gouvernement le savait, il ferait sans doute quelque chose pour mettre de l'ordre dans tout ça. Il pense que ça va leur servir de porte-voix. Ça l'a fait d'ailleurs, mais peut-être d'une façon différente de celle que certains de ces pauvres hommes enregistrés pensaient.
Des gens nous avaient dit d'aller écouter un certain McKinley Morganfield, plus connu par son surnom Muddy Waters. Et donc, par un autre après-midi torride de juillet, nous partîmes pour la plantation Sherrod et nous installâmes la machine à enregistrer dans une salle à l'écart du magasin de la plantation. C'était de loin le meilleur matériel que j'avais eu sur le terrain. Il gravait le son haute fidélité sur des disques d'acétate de 16 pouces de diamètre, ce qui signifiait que le chant et la parole pouvaient se poursuivre pendant près de 15 minutes avant que l'espace du disque soit rempli. À ce moment-là, Muddy Waters fit son entrée. Un costaud, cheveux frisés, peau marron, son visage rond, assez plat et ses yeux d'allure chinoise le faisaient ressembler à un aimable esquimau en plus foncé. L'aiguille d'émeraude de l'enregistreur ne tarda pas à graver un titre de blues qui devait littéralement entrer dans l'histoire de la pop musique. Muddy l'intitulait Country Blues.
Later when any child I feel that
like blowing my horn. I woke up this morning, find my little baby gone. Mm-hmm. Late over in the evening, man, I feel like blowing my horn.
Les minutes semblent des heures et des heures maintenant. Oh, ça ressemble à des journées. Il semble que ma petite femme doive arrêter ses manières viles et méchantes. Muddy Waters continua à chanter ce morceau, même après être devenu une star du blues urbain et l'idole des jeunes rockers. À la première conférence de presse des Beatles à New York, un reporter leur demanda ce qu'ils désiraient le plus voir. Immédiatement, ils répondirent « Muddy Waters et Bo Diddley ». « Où est-ce que ça se trouve ?» demanda le reporter inculte. Les Beatles rétorquèrent « Vous autres Américains n'avez pas l'air de connaître vos compatriotes les plus célèbres. » Mick Jagger choisit le nom des Rolling Stones d'après un vers d'un des blues que Muddy enregistra à Sherrod cet après-midi-là. En fait, cette session est devenue une sorte d'événement sacré dans l'esprit des amateurs de blues, sur laquelle on a tant écrit et tant discuté que les jeunes spécialistes du blues, dirait-on, en savent plus long que moi sur ce qui s'est passé.
Michael Taft, bibliothèque du Congrès.
C'est là qu'on stocke une partie du vieux matériel d'enregistrement mobile. Là, c'est un vieil appareil Edison, un enregistreur de cylindres en cire qui était utilisé pour faire les premiers enregistrements. Et là, un appareil qu'Alan Lomax a utilisé sur le terrain dans les années 40 ou un peu avant. C'est un tour qui grave des sillons sur un disque. Il est fait de différentes pièces. Le tour est doté d'une poignée, donc il est censé être mobile. On peut l'emmener sur le terrain, mais il pèse un peu lourd. Alors vous prenez un disque, vous le mettez sur le tourne-disque, comme ça. Vous placez le mécanisme au-dessus et vous enregistrez le son capté par le micro en gravant un sillon dans le disque acétate. Voilà le genre de micro qu'on utilise. L'appareil n'est pas branché, donc il faut imaginer un câble qui part de là et qui se branche sur la machine. Alan Lomax s'asseyait ici, il tenait le micro, ou bien il le mettait sur un pied et il enregistrait le musicien, le chanteur ou toute personne qui se trouvait là.
Nathan Salzburg.
L'appareil d'origine était assez volumineux et pesait environ 140 kilos. Il occupait tout le coffre de leur Packard. Rien que la batterie était énorme. D'ailleurs, à l'origine, l'appareil était alimenté par la batterie de leur voiture. Plus tard, ils ont réussi à obtenir des appareils qui fonctionnaient sur une batterie autonome, mais qui pesaient bien 40 ou 50 kilos. Les disques étaient gravés en direct, donc ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Si l'interprète se trompait, il devait continuer, ou s'il y avait un problème technique, il fallait changer de disque. Mais il n'était pas possible de modifier les enregistrements. Il n'y avait qu'une seule prise. Bien souvent, ces enregistrements n'étaient pas faciles à écouter car ils étaient très primaires. Mais il arrivait parfois que le son soit magnifique, et tout cela en utilisant un seul micro. Dans le domaine des technologies d'enregistrement, Alan était un visionnaire. Il savait très bien comment positionner le micro, comment placer les gens autour, quelles que soient les conditions. En plein milieu d'un champ, dans un taxi sans électricité, au bord d'un ruisseau. C'était des enregistrements de terrain, effectué dans des lieux de vie.
Il avait son franc-parler, il n'avait pas de manière.
Yves de France, ethnomusicologue.
D'un côté, il était très strict et rigoureux pour ce qui est enregistrement. Et puis, de l'autre, après, contrairement à beaucoup d'ethnomusicologues de cette époque-là, il gardait un contact avec ses informateurs. Il buvait très volontiers un coup avec eux, mangeait un petit chose, chantait lui-même son répertoire. Il faisait des choses naturellement, spontanément, qui n'étaient pas appréciées par le monde académique.
This recording is being made on the night of June 13, All Saints Festival in Port of Spain, and I want to get the name of the band.
Il était assez décontracté. Hein. C'est vraiment le Texan, un grand, une force de nature, hein, très grand, très costaud, et également aimant faire un peu la fête, chanter. C'est d'ailleurs comme ça qu'il arrivait à séduire ses informateurs, puisque avant, après. Les enregistrements, il se mettait à chanter lui-même.
Alan Lomax.
Bon chanteur, très grand répertoire, et puis il s'accompagnait assez bien. Il avait quand même beaucoup d'intuition sur les bons chanteurs, les bons musiciens, et surtout ce qu'il pouvait en retirer.
Nathan Salzburg, ancien responsable de l'archive Lomax, musicien.
Alan was a radical. He was a political radical. He believed in, you know,
sur le plan politique, Alan était un radical. Il croyait en l'égalité sociale. On ne peut pas vraiment dire qu'il était communiste. Il fréquentait pas mal de communistes et il avait peut-être une vision idéalisée des classes ouvrières, des classes prolétaires américaines, mais il savait également se comporter en bon vieux garçon. Il savait comment s'adresser aux gens, comment les mettre à l'aise. Il voulait que ces enregistrements imprègnent les esprits, le cœur, la conscience des Américains. Et surtout, il voulait conserver une trace de ces chansons, de leurs origines pour les générations futures. Il voulait que ces enregistrements leur servent d'outils pour faire valoir leur dignité, pour cultiver leur sensibilité culturelle dans le futur, pour avoir un point de comparaison. Alan voulait que ces enregistrements aient une vie propre et qu'ils soient utilisés de cette manière.
Jacques Vassal, journaliste.
Il y a deux autres exemples de travail d'Alan Lomax qui ont beaucoup compté. C'était les Library of Congress Recordings. Et il l'a fait avec Jerome Morton, mais il y en a deux qu'il a fait. C'était l'un avec Woody Guthrie, l'autre avec Led Belly. Alors là, il les a fait venir à Washington, à la Bibliothèque du Congrès, pour raconter leur vie et chanter leurs chansons. Et il en est ressorti des disques d'abord en 33 tours avec un livret d'accompagnement qui reproduit de mémoire la plupart de ce qui est raconté. Donc vous entendez les disques, vous entendez Woody qui raconte une histoire et puis qui chante une chanson venant illustrer l'anecdote qui précède ou bien celle qui va suivre. Même chose pour Led Belly, vous l'entendez raconter une histoire et puis chanter une chanson qui résume son histoire.
When you sing spiritual, this is a spiritual song of my own. I sing it for the communist people because I want them to shine. I shine the sun, O Lord. I shine the sun. I shine the sun, O Lord. I shine the sun.
Sont des gens qui ne maîtrisent pas l'écriture et la lecture et qui s'expriment beaucoup par voie orale. Donc évidemment, les paroles des chansons ont une importance particulière pour eux. Les chansons servent souvent d'expression, disons, poétique, d'expression artistique, soutenue par une musique, mais ils servent aussi quelquefois de journal pour certains d'entre eux, pour dire à tel endroit il se passe telle chose, il y a tel gouverneur ou tel garde-chiourme sur tel pénitencier qui est particulièrement sévère, etc.
Alan était conscient du rôle qu'il avait à jouer. Il se considérait comme une sorte d'intermédiaire entre les petites gens et le reste du monde, Plus particulièrement, les personnes au pouvoir, les institutions politiques autour des années 50. Il voulait être le porte-parole des travailleurs et surtout des travailleurs noirs. Il était considéré comme un danger, comme un ennemi par les anticommunistes au sein du gouvernement américain, notamment Joe McCarthy, qui était à l'origine de la peur rouge des années 40. Il n'a jamais rejoint le Parti communiste et son nom n'a jamais été inscrit sur la liste noire de McCarthy. Mais il a fini par quitter le pays au début des années 50 car il avait de plus en plus de mal à trouver du travail.
Alan Lomax a eu des ennuis avec la commission de ce qu'on appelait, à partir du début des années 50, House Un-American Activities Committee, le comité des activités anti-américaines, qui était une sorte de commission du gouvernement fédéral chargé de traquer les sympathies communistes réelles ou supposées de toute une série de personnes dans la population et notamment de tout le milieu artistique qui était supposé plus difficile à contrôler peut-être idéologiquement que la moyenne de la population salariée, disons. Ces gens-là avaient une tradition de liberté d'expression et étaient souvent plus à gauche que les gouvernements qui se sont succédés aux États-Unis. Ils étaient notamment assez souvent opposés à la ségrégation raciale sur la question du sort des Noirs, sympathisants de l'histoire et de la culture des Indiens qui ont été quand même la première population opprimée d'Amérique du Nord.
J'ai pu consulter son dossier au FBI. Il est très épais.
John Swede, biographe.
Si je devais le résumer en une phrase, je dirais que le FBI n'avait pas grand-chose contre lui et qu'on aurait dû le laisser tranquille. Mais tous les ans, il revenait à la charge. Ça a duré 12 ans. Mais on ne trouvait jamais rien contre lui. En fin de compte, le vice-président des États-Unis a dû intervenir pour y mettre un terme. Alan Lomax ne craignait rien, mais lorsqu'on lit le dossier, on voit que sa tante l'a accusé d'être un communiste. J'ai essayé de vérifier cette information et il se trouve que sa tante en voulait à son père. Donc, en attaquant Alan, c'était une façon d'atteindre son père. Tout ça pour une simple dispute familiale. Il n'y avait rien de sérieux contre lui, mais la façon dont il était traité laissait supposer qu'il était sur le point de se faire arrêter. De nombreux chanteurs folk, comme Pete Seeger, étaient accusés d'être des communistes. Et c'était ça le problème. En réalité, les rapports du FBI le décrivaient comme quelqu'un de négligé et qui s'entourait de chanteurs folk douteux et de nègres. C'est ce qui est écrit.
Il a sans doute fui un peu les États-Unis.
Yves de France.
Pour des raisons d'inconfort, à cause du macartisme. Donc il a été embêté par le FBI assez longuement, et même quand il était en Europe, on savait très bien où il était, qu'il soit en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne. Et donc, en allant en Europe, ce qui l'intéressait, c'était qu'il retrouvait dans ses traditions orales des musiques populaires qui étaient en partie à la source des musiques américaines.
Écosse, 1951. Skanduke kroha lango pano gunor Elmo loha vani kandana nangor.
Je pense qu'au départ, il a un peu tâtonné. Il est arrivé à Paris tout de suite, au Musée de l'Homme, et il s'est intéressé à écouter les enregistrements de la Phonothèque nationale. Le directeur du département d'ethnomusicologie, qui s'appelle Gilbert Rouget, lui a ouvert les portes, a discuté avec lui, et lui a fait découvrir des musiques que lui-même ignorait. Des musiques africaines, par exemple. des musiques des Pygmées et d'autres musiques que les Français avaient enregistrées. À cette époque, selon lui, Paris était considéré comme le meilleur endroit pour découvrir les musiques du monde. Son périple européen, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est en 50, 51, 52, 53. Il a passé deux Noëls seul, sans sa femme et sa fille, hein, parce que c'était compliqué, soit d'avoir un visa, soit il n'avait pas d'argent pour leur payer le billet d'avion.
Le paysage musical espagnol est divisé en trois. Tout d'abord, il y a la monodie, le chant à une seule voix, a cappella, au sud de la Sierra Madre, qui se caractérise par sa proximité avec l'Orient. Ensuite, au centre, il y a les chansons, avec des tessitures moyennes, qui nous sont familières et que nous considérons comme la musique espagnole. Enfin, un peu plus en hauteur, on trouve les voix catalanes, essentiellement solistes, et sur les hauts plateaux, une polyphonie naturelle. Dans les bars de Galice et du Pays Basque, les gens chantent en chœur. Les voix sont plus graves, les chansons sont faites pour chanter et danser en groupe. Et ce que j'ai constaté sur place vient étayer une ancienne hypothèse. C'est que les musiques européennes sont intrinsèquement polyphoniques. Et les chansons folk, chantées à voix aiguë, agrémentées de fioritures, elles sont le résultat du contact avec l'Orient.
En décembre 1950, il a pris le bateau et puis il a traversé la Manche pour aller rencontrer des gens responsables de la BBC à Londres.
John Swed, biographe.
La BBC l'a engagé pour qu'il fasse une émission et réalise des collectages. Il avait commencé principalement en Irlande et comme il me l'a dit, une partie de la BBC s'intéressait au folklore et aux chansons folk, mais pour les autres, ce n'était pas un sujet assez noble. Il s'en plaignait beaucoup. Avec l'avènement de la télévision, peut-être que son travail aurait pris plus d'ampleur, mais il est parti avant qu'elle ne prenne vraiment de l'essor. Une fois, à l'époque où la télévision était en direct, il a ramené plusieurs personnes, dont certaines étaient ivres et ont été malades en plateau, à rouler par terre alors que la caméra tournait. Impossible de couper la scène. Donc ses rapports avec les Anglais étaient un peu particuliers. La BBC l'a envoyé effectuer diverses missions en Angleterre, où il a rencontré un succès incroyable. Son émission la plus populaire était une émission de Noël, qui vaut la peine d'être écoutée. À cette occasion, Alan avait mis en relation toutes les nations du Royaume-Uni. Il a démarré l'émission en posant la question « Est-ce que l'Irlande est là ?» Quelqu'un répondait, puis il s'adressait à l'Écosse, et les Écossais « Vous êtes là ?» Ensuite, ils diffusaient leur musique. Ça a eu un grand succès. C'était du génie, vu le contexte et la logistique de l'époque. Vous allez penser que j'exagère, mais il était toujours très impliqué, partout. C'était plus fort que lui, il était partout.
Christmas, Britain. We're all here. Wales is here.
A happy Christmas to you all.
And Plymouth, are you on the line?
Yes, and wassail to you from the West Country.
And how about you in the North? Come in, Castletown, Derbyshire.
We're all here, and there's a right welcome to you all from Cheshire Cheese at Castletown, Derbyshire.
And North again, are we hooked up to you, Scotland?
Aye, we're here ready for you.
as they say in the Gaelic, 100,000 welcomes.
Now, Belfast, let's have you.
And the compliments of the season to you all.
And London, make us seven.
Yes, we're here in London with Skiffle, Calypso, Buskers and all, wishing you all the best from Old Smoke.
It's a Cayley, it's a party, it's a sing-song, it's Merry Christmas, it's Sing Christmas.
The princess must look down on the feast of Stephen.
From the seven sides of Britain, we present Sing Christmas and the Turn of the Year, introduced from Birmingham by Alan Lomax.
He was very sweet. He was very kind.
C'était quelqu'un d'adorable, de très gentil et de profondément humain. Parfois, il lui arrivait d'avoir des accès de colère. C'était de famille. C'est ce qu'il disait, et je pense qu'il avait raison. Son père était pareil. Il lui arrivait d'être très déprimé, de se remettre en question, de douter de lui-même, de se sentir incapable.
Je me demande de plus en plus si je devrais vraiment faire ce que je fais. Pourquoi tous ces voyages, tout ce travail, tout ce stress? J'ai pas le temps de voir réellement les pays. Je me fais pas plaisir et je suis seul. Aujourd'hui, je me rends compte que ces voyages, c'est pas naturel. L'homme ne peut pas vivre sans racines, sans amour, comme un goéland solitaire. À Londres, mon travail m'empêche de parler à des gens ordinaires, de sujets ordinaires. Ma passion pour le folklore est désormais si spécialisée que j'arrive plus à suivre. J'ai été tellement submergé que je me sens anesthésié. J'en ai tellement vu que j'ai plus le goût à rien. Partout où je vais. Ouais, le temps passe. Et je vis toujours dans l'ombre de mon père John, qui me rappelle à l'ordre et me fait douter de mes capacités à réussir par moi-même. Je continue malgré tout parce que j'ai du mal à m'arrêter.
I was born in East Virginia, North Carolina. I did roll.
John Baez, 1960.
There I met a fair pretty maiden. Her name
Quand Alan est revenu au pays, il a vu que le renouveau du folk urbain était en marche, plus particulièrement à New York.
Nathan Salzburg.
Ça lui a fait chaud au cœur de voir que ses efforts avaient payé. Les gens commençaient à s'intéresser au folk. Ils en écoutaient, ils en chantaient. C'était devenu un véritable mouvement. Mais d'un autre côté, une grande partie de la musique produite à cette époque était très artificielle, avec des interprétations édulcorées des chansons. Je pense à des groupes comme le Kingston Trio, les Brothers Four ou les Limelighters. Des groupes qui sont tombés dans l'oubli. Ce qui posait problème à Alan, c'est que ces groupes interprétaient les chansons sans se soucier du style ou du contexte d'origine. La musique folk a littéralement explosé quand les gens ont commencé à l'écouter. Comme le dit la légende, sans Alan Lomax, Bob Dylan serait resté Robert Zimmerman et il aurait continué à jouer dans des salons d'hôtel de Ebbing, dans le Minnesota, d'où il était originaire.
iron ore mines and iron ore town. Come gather round, friends, and I'll tell you a tale of where the red iron ore pits run aplenty.
Alan had all these recordings that Bob Dylan came and listened to. He also listened to Alan's copy of Harry Smith's Anthology of American Folk Music, which was a mid.
Alan avait de nombreux enregistrements qu'il avait fait écouter à Bob Dylan. Bob Dylan avait également écouté la copie de l'anthologie de la musique folk américaine de Harry Smith, qui contenait des enregistrements de banjoistes, de chanteurs de blues, de quatuors de gospel des années 20, et il avait été complètement bluffé. Mais c'était un artiste. Et en tant que tel, il s'était réapproprié ce qu'il avait écouté en y mettant sa patte créatrice. Et quelque part, Alan ne s'attendait pas à ça. Il n'avait pas anticipé le fait qu'une personne allait bouleverser l'univers du folk, cet art de troubadour, pour en faire de la musique pop. Je pense qu'il appréciait vraiment Bob Dylan, mais il ne l'a pas vu venir. Par la suite, il a vu le phénomène prendre de l'ampleur. La musique folk est devenue commerciale.
A marketable commodity, a pop culture commodity. And you know, Dylan was the best.
Personne n'aurait été capable de le faire aussi bien que Bob Dylan. Mais Alan était un peu atterré de voir ce que la musique folk était devenue au début des années 60, avant de subir d'autres transformations avec la période hippie. À cette époque, il s'était d'ailleurs tourné vers des préoccupations beaucoup plus ésotériques, comme le style de jeu, la recherche, sa théorie de la cantométrie et ce genre de choses.
Cantométrie, c'est un projet de compréhension, de classification des musiques du monde entier, à partir d'une trentaine de critères, donc c'est quand même important, des critères d'origine plutôt culturelle.
Yves de France.
Et selon les musiques, il pouvait retrouver, il espérait du moins, quelles étaient les sociétés qui avaient produit ces musiques. Et inversement, selon les sociétés dont il avait connaissance, il pouvait imaginer ce qu'en déduisait la pratique musicale.
Il n'aurait jamais survécu à l'université.
John Swed.
Il n'était pas fait pour ça, même s'il avait un profond respect pour les gens qui s'y trouvaient. Quand il s'est tourné vers une approche plus scientifique de ses collectages, il avait le soutien de quelques personnes très sérieuses, d'universitaires ou de scientifiques, mais la plupart d'entre elles n'adhéraient pas à sa théorie de cantométrie et la trouvaient absurde, tout comme les spécialistes du folklore. Donc, il allait à contre-courant.
Cette théorie est un peu boiteuse et n'a pas été très bien suivie. Il n'empêche qu'il est allé assez loin dans des réflexions sur ces sujets-là. Et il a peut-être préfiguré les études sur la culture qu'on appelle « cultural studies », c'est-à-dire les études sur des minorités, sur des groupes sociaux inconsidérés, sur des migrants et sur leur musique.
L'un des plus grands objectifs, l'une des missions les plus urgentes de notre siècle, est d'enregistrer toute l'étendue de la culture humaine, autant que possible. Avec un nouvel équipement audio mobile, ce serait réglé en peu de temps, en une génération maximum. Le temps presse, car le système urbain industriel a si bien réussi à contrôler et exploiter la biosphère qu'il a temporairement aveuglé la majorité de l'humanité sur d'autres valeurs. L'industrie du divertissement, qui fonctionne selon un système de communication à sens unique, menace aujourd'hui d'anéantir les cultures des pays, comme elle a longtemps réduit au silence les cultures locales, paysannes et primitives. Si nous n'agissons pas maintenant, ce qui reste de la diversité culturelle humaine est voué à disparaître.
Gardez-les,
L'association pour l'égalité entre les cultures qu'il a créée, Cultural Equity, lui a donné un cadre qui lui a permis de faire son travail et d'exécuter ses recherches.
Anna Lomax, fille d'Alan Lomax.
L'équité culturelle. C'est Alan qui a inventé cette expression. Personne ne l'avait utilisée avant lui au début des années 70. Ce qu'il voulait dire, c'est que c'était son grand œuvre. Il voulait que les populations défavorisées, les populations autochtones, les classes ouvrières, les agriculteurs, soient reconnus, ainsi que leur culture et leurs traditions orales, et les chansons, les danses et les autres modes d'expression développés dans le monde entier. L'œuvre de l'humanité. Pour ces populations, il n'existait aucun moyen de les préserver, si ce n'est en les transmettant de génération en génération. Et quand la transmission s'arrêtait, c'était terminé. Tout ce patrimoine, c'est un monument.
L'équité culturelle visait l'égalité dans les médias,
Nathan Salzburg,
à la radio, à la télévision, dans les enregistrements, mais aussi dans les salles de classe, dans les établissements d'enseignement pour que les personnes de toutes origines et de toutes appartenances voient leur mode d'expression traditionnel représenté. Non seulement dans un souci de compréhension mutuelle, mais aussi pour renforcer leur estime de soi. Et il s'exprimait à une époque où, de toute évidence, les médias de masse envahissaient les ondes radio américaines. L'époque d'Hollywood, de la radio, de l'émergence de la télévision. Tout cela a contribué à faire disparaître une grande partie des merveilleuses spécificités culturelles propres aux différentes régions des États-Unis et du reste du monde. C'était également le cas en Italie, en Espagne, dans les îles britanniques, en Irlande. Partout où il est allé, où il a pu observer des modes de vie traditionnels liés aux costumes, à la nourriture, aux méthodes de travail, aux rites religieux et à l'éducation des enfants, tout commençait à se fissurer. Tous ces liens commençaient à se défaire à cause de l'impact des médias de masse, des musiques populaires, du cinéma et du reste. Il se sentait donc investi d'une mission, celle de donner la parole à ces populations, de montrer qu'elles pouvaient se faire entendre.
Quand il est revenu d'Europe, il a refait des enregistrements dans le sud des États-Unis, puis il a repris son travail, la suite, on va dire, de son travail antérieur de collecteur des musiques américaines.
Jacques Vassal.
Et par exemple, il enregistre Fred McDowell, qui est un grand bluesman du Delta du Mississippi, qui jouait de la guitare avec un bottleneck et qui était un chanteur superbe aussi. Eh bien, Lomax l'enregistre en 1959. Quelque part, c'est une suite logique à ce qu'il faisait quand il enregistrait Muddy Waters et Son House en 1942, dans la même région.
Just keep on your love. Keep on your love. Keep on your love.
Après ses collectages dans le sud des États-Unis en 1959, de magnifiques enregistrements stéréo, il a travaillé d'arrache-pied pour aider des musiciens tels que Bessie Jones, la chanteuse de l'ensemble vocal Georgian Sea Island Singers, et Fred McDowell, le guitariste du nord du Mississippi, à se produire sur scène dans de grandes villes comme Chicago ou New York. Il a aidé Bessie Jones à organiser une tournée sur la côte ouest des États-Unis. C'était comme une sorte d'agent, d'impresario. Ça ne lui rapportait rien, mais il tenait vraiment à aider les chanteurs qu'il avait enregistrés à gagner un peu d'argent.
Il a vécu dans la pauvreté la majeure partie de sa vie.
John Swede, biographe.
Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'en raison de la complexité du système des droits d'auteur,
les gens étaient persuadés qu'il détenait les droits d'auteur de toutes les chansons folkloriques qu'il avait enregistrées, mais c'est complètement faux. Il y a différentes sortes de droits d'auteur. Il avait le droit d'utiliser ses enregistrements dans certaines publications, mais pas à des fins lucratives. Le fait est qu'il n'a jamais roulé sur l'or. Il était pauvre jusqu'à sa mort. Il avait la réputation d'être riche, alors qu'en réalité, il se faisait expulser de ses logements parce qu'il n'arrivait pas à payer son loyer.
Il y avait des groupes de rock qui interprétaient des chansons qu'Alan avait enregistrées, comme les Rolling Stones. Les Rolling Stones ont repris « You Got To Move », chanson de Fred McDowell qu'Alan avait enregistrée en 1959. Il s'est assuré que Fred touche bien ses droits d'auteur. Le problème, c'est que les licences ont commencé à être distribuées seulement à la fin des années 90 pour utiliser des chansons dans de grands films hollywoodiens et qu'il y a vraiment eu de l'argent à se faire. L'histoire la plus célèbre à ce sujet, c'est sans doute celle du film « Oh Brother ».
« Oh Brother, Where Art Thou ?»
Ce film a connu un énorme succès aux États-Unis. Et la bande originale comportait l'enregistrement d'un groupe de prisonniers interprétant un chant de travail intitulé « Poe Lazarus ». Alan avait enregistré ce chant à la prison d'État du Mississippi, plus connu sous le nom de Parchment Farm.
In Mississippi by Alan in 1959, and no one knew where these singers were, but all this money started coming in because the song was used in the soundtrack.
Personne ne savait ce qu'étaient devenus les chanteurs. Mais le film a engendré des sommes colossales parce que le chant était utilisé dans la bande originale qui se vendait en masse. Donc l'association Lomax a dû engager un journaliste d'investigation pour retrouver son auteur, James Carter. Ils ont d'abord retrouvé sa femme, qui était diacre dans une petite église du sud de Chicago. Il a fallu la convaincre que son mari était bien l'auteur, parce qu'il ne se souvenait absolument pas de l'avoir enregistré. Il était à l'hôpital pour une pneumonie. Sa femme est allée le voir dans sa chambre, lui a montré les photos transmises par l'association ainsi que l'enregistrement en question. Il n'avait jamais eu vent du film ni de l'enregistrement. 5 jours plus tard, il s'envolait pour la cérémonie des Grammy Awards avec sa femme et ses 2 filles, autour de laquelle l'album a remporté le titre de meilleur album de l'année et James Carter a reçu un chèque de $20,000.
Mon père était cardiaque. Pour moi, le médecin a commis une grave erreur en décidant de l'opérer des artères carotides. Il a eu une hémorragie cérébrale, et à partir de ce moment-là, c'était la fin. Un peu avant cela, il m'avait demandé « Est-ce que tu peux finir le Global Jukebox ? Peux-tu prendre le relais ?» Non, papa, ce n'est pas possible. J'ai déjà une vie bien remplie, tu ne peux pas me demander ça. Mais au final, c'est ce que j'ai fait. L'enjeu était trop important. Je ne pouvais pas prendre le risque de laisser ça à quelqu'un qui ne comprendrait pas vraiment de quoi il s'agissait. En fait, j'ai rendu les archives un peu plus vivantes, en les mettant en relation avec les personnes et les populations auxquelles elles appartenaient dans le monde entier, en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne, en Irlande, et un peu partout aux États-Unis. À ce jour, nous poursuivons nos efforts.
Pour moi, c'est un humaniste libre, indépendant financièrement, indépendant d'une institution.
Yves de France.
Indépendant d'une école, d'une théorie à défendre, indépendant même d'un gouvernement ou d'un projet politique. Non, je crois qu'il a ouvert la voie probablement à d'autres chasseurs de sons. Et au fond, oui, c'est un chasseur de sons, un chasseur de poésie, un chasseur de culture populaire, peut-être un chasseur d'expression naïve et simple, comme une simple ballade chantée par une femme, a cappella, sans accompagnement, sans mise en scène.
When he was young, he would go with his father on these trips, and most of the time.
Quand il était plus jeune, il partait souvent en voyage avec son père. La plupart du temps, quelqu'un leur donnait de l'argent pour louer une voiture et ils dormaient dedans, ou bien ils campaient. Personne n'a jamais financé leur travail, donc ils vivaient un peu comme des vagabonds, mais ils s'en fichaient. Et ils adoraient voyager comme ça. Alan a continué à mener sa vie dans cet esprit. Il était libre.
Alan Lomax meurt en 2002. Des Rolling Stones aux Beatles, de Kurt Cobain à Ram Jam, en passant par Moby, l'héritage direct ou indirect de son travail, porte-voix des sans-voix, continue à résonner dans l'histoire de la musique. L'archive Alan Lomax contient environ 6400 enregistrements sonores, 5500 images, 6600 documents audiovisuels ethnographiques et des centaines de manuscrits. Avant même l'avènement d'Internet, Alan Lomax imagina, à la fin de sa vie, le Global Jukebox. Aujourd'hui, le Global Jukebox permet d'écouter et d'explorer plus de 6000 chansons associées à 1000 cultures différentes. C'était Alan Lomax, 1915-2002, Enregistrer le monde. Un documentaire d'Anne Girard Esposito, réalisé par Thomas Duterre. Avec Peggy Seeger, Jacques Vassal, Nathan Salzburg, Yves de France, John Swed et Anna Lomax. Lecture, extrait de Le pays où naquit le blues et du journal d'Alan Lomax. Voix française, Christophe Brault, Romain Lemire, Pierre-Benoît Varroclier et Nathalie Canoui. Merci à Roger Kappers et Jules Verheich pour les extraits du film Lomax de Song Hunter. Extrait d'interview d'Alan Lomax, CBS. Traduction, Blandine Fourchet. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Prise de son, Manu Couturier, Grégory Wallon, Dali Yaha et Jean-Guilain Meige. Mixage, Manu Couturier. Un documentaire d'Anne Girard Esposito, réalisé par Thomas Duterre. Right down to the basin, pool, say, Adam and Eve.